du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à Présence Midi. C'est un bonheur de se retrouver entre 12h et 13h avec au sommaire de ce magazine. Dans quelques instants, on va parler d'écologie grâce à l'invité de David Torchala dans l'émission L'Heure de Pointe. Ça s'appelle Clamor Terrae, c'est tout simplement, ça veut dire le cri de la Terre. On découvrira cette ONG qui œuvre ici dans notre région pour venir en aide à notre belle planète. Et puis après, un jour, un livre en auteur, ce sera tour de Philippe Noni et Diego Arrabal, mais plutôt particulièrement Diego Arrabal, puisqu'aujourd'hui, on va parler de polar. Voilà, un polar qui se passe dans notre région grâce à l'auteur qui a été sélectionné, Patrick Glaise. Tout de suite, par contre, nous allons faire un point sur l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 28 janvier. Et pour cela, on retrouve Lou Denville.
Le club de la presse Occitanie et Reporters sans frontières appelle à un rassemblement citoyen en soutien à Christophe Glaise. Ce comité de soutien demande au pouvoir algérien la libération immédiate du journaliste sportif français et appelle les autorités françaises à rechercher dans les meilleurs délais une solution diplomatique. Le rassemblement aura lieu à Toulouse demain à 11h, Square Charles de Gaulle. La préfète de l'Aveyron a réuni le comité de suivi du site Bosch, Donner le Château. À cette occasion, le comité a décidé d'engager en lien étroit avec Bosch et les collectivités territoriales la phase de redynamisation industrielle du site afin d'attirer de nouvelles entreprises industrielles et des emplois d'ici 2030. À Bagnères-de-Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées, les travaux des allées Jean Jaurès se poursuivent. De nouveaux itinéraires alternatifs sont mis en place en fonction des secteurs du chantier. Dans la mesure du possible et lorsque l'état du chantier le permet, la circulation est rétablie en soirée afin de limiter l'impact sur les déplacements quotidiens. Demain, le groupement d'employeurs du Fezensac ouvrira une nouvelle permanence dans la ville de Oz. Ce dispositif est dédié à l'usage des coopératives d'entreprises rurales et des collectivités locales. Les permanences actuelles situées à Vic, Fezensac, Lectour, Condon, Nérac et Nogaro vont continuer de mailler le territoire armagnacais.
Un grand merci à Lou Denville qui est étudiante à l'école de journalisme de Blagnac et qu'on retrouvera tout à l'heure à 12h30 pour cette fois-ci le journal complet. Nous allons maintenant parler de notre belle terre et de cette belle ONG qui est installée dans notre région.
Présence à Montauban, 93.3.
L'heure de pointe, David Torchala.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure de pointe. Bonjour Anne Deslois.
Bonjour David. Bonjour à tous.
On est toujours content de vous retrouver comme chroniqueuse de cette émission.
C'est réciproque. Heureuse de vous.
Et vous aussi, Delphine Pereira.
Toujours. Moi, ça va très bien. Bon. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous.
Merci d'être là.
Et bonjour à notre invité aussi.
Mais oui, on a un invité qui est super. Merci d'être là au titre du groupe La Dépêche du Midi, la Nouvelle République. Oui, oui, on a la joie d'accueillir Thomas Contamine. Bonjour Thomas. Vraiment, c'est une joie de vous recevoir. Vous êtes le directeur de Clamor Terrae, une fondation qui agit pour préserver les espaces naturels et la biodiversité, notamment dans les Pyrénées, la grande chaîne des Pyrénées. Alors leur particularité, la particularité en tout cas de votre fondation, eh bien, c'est de combiner, je crois ne pas me tromper, la science, le droit, et l'action citoyenne, voilà, pour défendre concrètement la nature. Alors avec vous, on va voir comment cette démarche fonctionne, quels sont les projets en cours. On croit comprendre que vous en avez pas mal, puisque cette fondation, elle est récente, elle a un an, et vous allez nous parler de la genèse de cette fondation. Et puis peut-être aussi s'il y a des étapes à franchir, des difficultés à surpasser, des ambitions aussi écologiques que vous avez, et voilà comment elles sont confrontées avec la réalité, les réalités en tout cas locales que nous impose Dame Nature. Ça vous va comme programme?
Bah, très bien, on va connaître un peu plus de choses et on sortira moins bête de ce studio,
écoutez,
comme d'habitude.
Ouais, ça c'est bien, mais c'est vrai que ça nous enrichit. En tout cas, voilà, parler de nature avec vous, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Thomas Contamine, nous dire en fait quelle a été la genèse de Clamor Terrae, cette fondation, comment est-elle née?
Alors, cette fondation, elle est née de la volonté et de l'ambition de son fondateur, qui est Monsieur Denis Clément, qui a tout au long de sa vie à la fois accumulé des connaissances naturalistes assez poussées, même si il a toujours été naturaliste amateur, et accumulé aussi un certain nombre de constats sur le niveau de dégradation toujours plus avancé de nos écosystèmes, de la nature en général, que ce soit ici dans les Pyrénées, en France ou partout dans le monde. Et donc il a décidé, à un carrefour de sa vie, à quelques années de sa retraite potentielle, de consacrer l'intégralité de ses compétences, de son temps et de ses ressources à la défense de la nature au sens large, et de créer cette fondation Clamor Terrae. Donc elle est née de sa volonté personnelle il y a un an de ça, et ensuite il a structuré une démarche, une activité, recruté une équipe de salariés, dont je suis, et là on est en phase de déploiement de ce projet qui à l'origine est son idée.
La fondation est aussi une réalité économique, c'est un fonds de dotation. Quelle est la particularité de ce modèle?
Alors, un fonds de dotation, c'est une personne morale qui est sans but lucratif et qui a pour vocation de collecter des ressources financières de philanthropes ou de mécènes et ensuite de les redistribuer pour des actions d'intérêt général. Ça, c'est le cadre global. Et dans le cadre de la fondation Clamor Terrae, l'objectif, c'est d'employer nos fonds en lien avec notre objet, qui est la préservation de la biodiversité et la culture du lien qu'entretiennent les sociétés humaines avec la nature.
Et votre parcours à vous, alors, finalement? Parce que vous êtes salarié et vous avez été approché, je suppose, ou... Et quel est votre parcours, je suppose, écologique?
Alors écologique, mais par des voies un petit peu détournées. Alors moi, j'ai un parcours qui est pas en droite ligne sur ces sujets-là. Moi, je suis historien et archéologue de formation, et j'ai fait des études qui avaient pour vocation d'étudier l'interaction qui existe entre des sociétés humaines et leur environnement. J'ai étudié ça pendant plusieurs années, et donc je suis une sorte de héritier des sciences humaines, et puis sensibilisé aux questions écologiques, à ce qu'on appelle l'écologie historique comparée notamment. Et ensuite j'ai travaillé dans le monde des collectivités territoriales, donc moi je travaillais précédemment dans les Pyrénées-Atlantiques pour une communauté d'agglomération. J'ai eu vent de l'existence de ce projet qui m'a beaucoup plu dans ses fondements, qui était à la croisée d'un certain nombre de constats que j'avais pu faire dans mes missions précédentes et qui m'a donné envie de m'engager aux côtés de Denis pour ce projet.
Ouais, évidemment, vous connaissiez donc les Pyrénées, c'était un attachement peut-être personnel?
Tout à fait personnel. Moi, je suis originaire des Hautes-Pyrénées, c'était l'objet de mes recherches précédemment, c'était une étude comparée entre ce qui pouvait se passer dans les systèmes agro-pastoraux pyrénéens avec les situations dans le bassin méditerranéen, dans les Balkans notamment. Donc j'ai toujours eu cet attachement effectivement aux Pyrénées, et on partage avec Denis le constat que les montagnes en général sont parmi les derniers espaces refuges de vie sauvage dans le monde. C'est eux qui concentrent la plus grande biodiversité terrestre, si on met à part bien sûr les forêts tropicales. Et donc c'est à la fois des territoires qui sont particulièrement menacés par le changement climatique, qui, pour des raisons qu'on comprend pas tout à fait, s'accélère encore plus vite en montagne qu'en plaine. Les Pyrénées se réchauffent et les Alpes se réchauffent plus vite que le reste de la France, donc ils sont vraiment soumis à ces chocs climatiques, mais qui à la fois hébergent une biodiversité tout à fait unique. Donc c'est un peu là où se concentrent des enjeux objectifs, en plus de cet attachement un peu subjectif au pays. Il y a aussi beaucoup de choses à faire, et c'est, on en est persuadé, un endroit où On peut tout à fait faire la démonstration d'une cohabitation apaisée entre les activités humaines et puis les besoins minimaux de l'écosystème pour qu'il puisse survivre.
Votre fondation, alors, elle a vraiment pour mission aussi la sauvegarde, la protection des Pyrénées, enfin, de toute la chaîne de montagne, de travailler donc avec des partenaires locaux, enfin, au niveau des collectivités, c'est des villageois, c'est des groupements d'habitants, ou comment ça se passe, toute cette mission de sauvegarde pour vous?
Alors, peut-être qu'on pourra revenir après sur ce qu'on entend par sauvegarde, parce que dans le milieu de la protection de la nature, on peut entendre plusieurs choses ou mettre plusieurs choses derrière ces notions de conservation de la nature ou de sauvegarde. Il peut y avoir des visions assez différentes, donc on pourra en parler si vous voulez.
Mais sinon, peut-être qu'on peut en parler,
tout de suite. Ben on reviendra au partenariat après.
Donc il y a plusieurs sens à la sauvegarde.
Alors c'est pas qu'il y a plusieurs sens, c'est qu'il y a plusieurs manières de la faire.
Oui.
En gros, pour caricaturer, il y aurait dans la conservation de la nature deux courants principaux, des conservations de la nature stricte, c'est-à-dire qu'on part du principe que pour pouvoir garantir le fonctionnement pérenne de ces écosystèmes, il faut exclure tout usage humain de ces périmètres.
Ouais.
Tout. C'est-à-dire que s'il y a du pastoralisme, on n'en met plus, s'il y a de la chasse, on n'en met plus, s'il y a de l'agriculture, on n'en met plus. Donc c'est une vision assez radicale. Et ensuite, il y a d'autres courants qui essaient plutôt d'opérer une sorte de convergence entre les activités humaines et les besoins de l'écosystème. Nous, on est plutôt porteur de cette seconde vision, c'est-à-dire qu'on reste persuadé que ce qu'on appelle par exemple la libre évolution, appliquée à certains milieux très spécifiques, des petites parcelles de forêt avec une richesse biologique exceptionnelle, des zones humides, etc. Donc exclure tout usage humain de ces petits périmètres, ça peut avoir du sens. Mais en tant que stratégie globale, c'est pas vraiment tenable ni raisonnable d'imaginer ça. Et d'autant que ça ne résout finalement pas l'espèce de hiatus un peu anthropologique, civilisationnel qu'il y a entre l'homme et la nature, où petit à petit, c'est des trajectoires qui se sont séparées. Vouloir conserver en excluant les activités humaines, c'est finalement continuer de creuser ce fossé qu'il y a entre les hommes et la nature, alors qu'essayer plutôt de travailler dans une sorte de recherche de consensus entre ces parties-là, ça me semble un peu plus stimulant sur le plan intellectuel, et puis de toute façon plus pragmatique et réaliste.
Quel est votre constat? Vous pensez, évidemment, enfin, quand on, y a une action militante, en tout cas chez vous, il y a toujours un caractère d'urgence dans les associations qui sont en faveur de la sauvegarde, si je dis le mot juste de l'environnement. Quelle est l'urgence pour les Pyrénées, le constat?
Il y a des constats globaux qui sont les mêmes qu'un peu partout, c'est-à-dire que le changement climatique est une réalité quotidienne, c'est pas pour demain ou pour dans 10 ans, ça a déjà commencé, on le voit sur des choses très très pratiques qu'on peut à peu près tous observer, sur l'augmentation moyenne des températures, la diminution du nombre de jours de gel par an, la diminution du volume des précipitations, la diminution du nombre de jours enneigés, les stations de ski en savent quelque chose, la fonte tout à fait alarmante des derniers glaciers qui nous restent, si vous connaissez un peu le coin, le glacier d'Ossou dans le massif du Vignemale fait quand même pas le figure. Donc il y a un certain nombre d'indicateurs objectifs qui sont en fait le reflet de la dynamique mondiale qui est commune à tout le monde, qui s'applique sur les Pyrénées et qui ont des conséquences très concrètes sur le fonctionnement des écosystèmes. Et puis à côté de ça, il y a des pressions qui sont pas originales aux Pyrénées, mais qui sont beaucoup plus spécifiques au milieu, de pressions d'aménagement, de création de nouvelles routes, de nouvelles zones urbaines, de nouvelles infrastructures de transport, de production d'énergie, qui ont des impacts tout à fait dramatiques sur le milieu naturel. Et que nous, on n'entend pas combattre pour elles-mêmes, mais qu'on entend interroger au regard des impacts précisément qu'elles ont sur l'équilibre de ces écosystèmes. Parce que force est de constater aujourd'hui que là où collectivement, nous, on va dire défenseurs de la nature, on a tous échoué depuis 30 ans, parce que faut quand même reconnaître que les choses vont pas beaucoup mieux depuis qu'on a commencé à s'attaquer au problème. C'est-à-dire qu'il y a eu de très très belles victoires qui ont été remportées, mais globalement, on est quand même plutôt perdant sur la chose. Hein. La dynamique d'effondrement du vivant a pas vraiment été inversée depuis qu'on commence à s'intéresser à la question. Le constat, c'est que on a fait vraisemblablement le mauvais diagnostic sur ce qui cause cet effondrement, et on a mis du coup en œuvre des solutions qui n'étaient pas forcément adaptées ou pas à l'échelle, et puis s'attaquer pas aux bonnes causes. Et donc, c'est ce que, en partie, on n'est évidemment pas les seuls à porter cette vision, on entend déployer concrètement sur le terrain.
Pour rejoindre peut-être la question de départ d'Anne Deslois, est-ce que vous pensez être compris, être entendu par les habitants des Pyrénées, des maires de villages, des agriculteurs, enfin en tout cas ceux qui pratiquent la terre, des habitants des communes. Est-ce que vous avez le sentiment d'être compris, d'être entendu sur ces réalités-là?
Bah, le sentiment, on verra à l'usage, parce que ça fait un an qu'on y travaille. Donc pour l'instant, les quelques retours qu'on a sont positifs, mais c'est à travailler. En tout cas, c'est notre préoccupation principale. Ouais. Et là, on est rentré dans cette discussion avec des grands concepts de conservation de la nature,
oui,
etc. On applique toujours ça à des cas extrêmement concrets, opérationnels.
Citez-nous un exemple concret, par exemple,
d'action que l'on mène.
D'une action que vous menez.
Donc on rentre directement dans le volet action de la fondation.
Action, réaction, alors au quotidien, la fondation Clabor Terrae.
Alors notre action, elle se déploie dans différents axes. Donc Clabor Terrae, pour ceux qui ne sont pas familiers de la langue latine, ça veut dire la voix de la terre, ouais. La voix avec un X.
Ouais.
Et donc on...
La clameur,
voilà, c'est ça, la clameur, exactement. Alors, ça peut être traduit par le cri, la voix, c'est plus ou moins positif ou négatif en fonction de la manière dont on le traduit. Et on était heureux de cette ambiguïté-là, pouvoir à chaque fois jouer sur le côté alarmant et puis sur le côté un petit peu enthousiasmant de la clameur qui pourrait nous porter vers l'action. Et donc, on déploie notre action dans différents axes. D'abord, on a un axe qu'on appelle écouter, bon, écouter la voix de la Terre. Donc, c'est-à-dire qu'on a, à travers notre activité, un soutien à des programmes de recherche académiques portés par des universités qui cherchent à améliorer la connaissance que l'on a des dynamiques à l'œuvre dans les Pyrénées et nous aider à la formulation de solutions concrètes. Ensuite, on a un deuxième volet d'action qui est défendre la voie de la Terre. Donc là, on met en place, nous et nos partenaires, un réseau de veille sur les atteintes à l'environnement qu'il peut y avoir sur toute la chaîne des Pyrénées. Alors évidemment qu'on passe à côté de beaucoup de choses, mais enfin, on essaie de structurer ce réseau de veille. Et le cas échéant, quand on constate qu'il peut y avoir un projet qui peut avoir des effets nocifs, on peut engager des recours juridiques pour s'opposer à l'existence de ces projets ou mener des campagnes d'influence si le recours juridique n'est pas fondé, pour essayer de faire avancer le débat, réduire les impacts de ce projet, voire l'empêcher. Ensuite, on a un volet protection de cette voie de la Terre. Donc là, ce qu'on entend par protection, c'est des actions un peu plus concrètes d'acquisition foncière notamment. C'est-à-dire qu'on est convaincu que le meilleur moyen d'appliquer des modes de protection qui vont bien sur certains espaces, c'est d'en devenir propriétaire ou alors de les protéger par voie réglementaire. Donc là, il existe tout un tas d'outils, notamment un outil qui s'appelle les obligations réelles environnementales, qui est un contrat entre un propriétaire et puis une tierce personne représentante de l'autorité environnementale. Un contrat qui est passé qui stipule que le propriétaire s'engage à préserver l'intégrité biologique et les caractéristiques de l'écosystème qui est présent sur sa parcelle.
Vous êtes en train de dire que finalement, votre fondation peut acheter des parcelles en fait, de terrain et s'engager à ce que...
À la protéger.
À protéger, c'est-à-dire ouais. En la laissant vivre.
Alors tout dépend. Alors c'est
action,
ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure.
Oui,
c'est-à-dire que, alors du coup sur cette question de l'acquisition, donc nous on peut acheter des terrains en propre et en devenir les propriétaires, ou alors on peut aider nos partenaires à devenir propriétaires. Nous notre objectif c'est pas du tout d'accumuler des hectares, c'est de contribuer à leur protection. Si on a des partenaires qui partagent nos valeurs et s'engagent dans les mêmes intentions que nous à les protéger, on les aide simplement à devenir propriétaires. L'un de nos partenaires principaux sur ce sujet c'est le Conservatoire d'espaces naturels. Occitanie, avec qui on a une convention de partenariat. On est en train d'en établir une avec le Conservatoire Côté Nouvelle-Aquitaine. On travaille avec Néo, Nature en Occitanie également, le Fonds Forêt Préservée, voilà, un certain nombre de partenaires. Et une fois qu'on est propriétaire ou qu'on a la maîtrise de ces fonciers, l'objectif, c'est d'inverser le regard qu'on y porte. C'est-à-dire qu'on commence par analyser la qualité écologique du milieu. Et en fonction de la qualité écologique du milieu, on en déduit les usages qu'on peut avoir. Si c'est une forêt, on dit, ben là, c'est très précieux, cet îlot, on n'y touche pas. Par contre, ici, on peut s'autoriser à l'exploiter. Mais comment? Comment est-ce qu'on peut développer un mode d'exploitation de cette forêt qui préserve le fonctionnement de son écosystème? Si on prend la même chose sur une prairie, on dit, bah là, il y a un petit îlot sur lequel les bêtes ne doivent pas aller pâturer parce qu'il y a telle bestiole qui niche ou c'est important de le préserver. On le préserve. Par contre, sur le reste, évidemment qu'on laisse se déployer l'activité pastorale, mais on essaie de la penser en fonction des besoins de l'écosystème. Tout ça dans une logique de pérennité. En fait, c'est du pragmatisme pur. En fait, pour que la fête puisse durer encore un petit peu, il faut faire en sorte que de pas trop osciller la branche sur laquelle on est assis. Donc c'est ça la logique qui nous pousse.
C'est passionnant ce que vous nous racontez, parce que là on découvre en fait des actions beaucoup ignorent, et j'avoue, je m'inclus dans cette peut-être majorité. Comment ça se passe en fait? Vous achetez pas des parcelles constructives, vous faites pas vos achats sur le bon coin. Enfin, c'est-à-dire que vous prenez peut-être des pans de montagne, de comment se font les choses, comment se font ces acquisitions?
On a monté un petit réseau de veille qui nous permet de se tenir au courant de ce qui se vend. Parmi les choses qui se vendent, il y a des choses très intéressantes sur le Bon Coin, donc on est aussi branché sur le Bon Coin, etc.
Vos veilleurs, ce sont en fait des militants.
Alors, on a un certain nombre
de
bénévoles, et puis ensuite, ça fait partie aussi de notre activité en tant que salarié, effectivement.
Et vous avez un réseau quand même qui est structuré.
Exactement, c'est là où j'allais en venir.
Il vous faut des scientifiques, des juristes. Comment ça fonctionne?
Alors, pour le volet scientifique, adossé au fonctionnement de notre fondation, il y a un comité scientifique qui est composé de chercheurs. Alors, donc, en gros, nous, on les soutient dans leur programme de recherche, en échange de quoi ils nous aident à la consolidation stratégique de nos positionnements, à nous aider à arbitrer entre telle parcelle ou telle parcelle par rapport à l'intérêt écologique qu'elle représente. Ensuite, on a un réseau de partenaires historiques, parce que sur ces sujets-là, la fondation Clamor-Terrae, elle n'est pas révolutionnaire en tant que telle. Ça fait 30 ans qu'il y a des gens, y compris dans les Pyrénées, qui s'occupent de ça. France Nature Environnement, Nature en Occitanie, etc., qui font très très bien les choses. Donc l'idée, c'est qu'on coordonne nos actions pour passer à l'échelle, en fait, parce que c'est ça qui nous manque aujourd'hui.
Parce que vous pensez qu'il manque encore d'acteurs pour la défense, est-ce que le choix peut pas être de venir renforcer en fait des fondations existantes ou des organismes existants? Est-ce que vous pensez qu'il faut multiplier les acteurs?
Il faut les deux.
Il faut les deux,
c'est-à-dire que il y a un certain nombre d'acteurs qui sont bien positionnés, qui ont un niveau d'expertise suffisant. Pour ces acteurs-là, ce qu'il faut, c'est augmenter leur pouvoir d'action, donc leurs ressources financières, très pratiquement.
Ouais.
C'est le cas de France Nature Environnement, par exemple. Ils ont une expertise exceptionnelle en matière de d'affaires juridiques. Ils sont parfaitement structurés pour ça. Après, ils fonctionnent à 90%, en tout cas dans le département, avec des bénévoles. Donc, ils ont besoin de soutien pour pouvoir augmenter leur pouvoir d'action. Et ensuite, et c'est le pari en partie de la fondation, il y a quand même dans le paysage des gens qui s'occupent de la protection de la nature des angles morts dans l'action. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'actions qui se trouvent au point de convergence, mais dans un angle mort, entre les actions des collectivités ou des services déconcentrés de l'État et puis des associations. Soit parce que les collectivités, ce n'est pas dans leur prérogative, une collectivité n'engage ses actions que dans le cadre d'un périmètre de prérogative défini. Et puis les associations de protection de l'environnement historique, elles ont un pouvoir d'action financier ou en termes de ressources humaines qui est limité aussi. Et donc, à la convergence de tout ça, il y a des angles morts. Et c'est précisément ce que nous, on cherche à investir.
Il y a aussi le droit comme outil de protection. Daphine Perrin, c'était une question que vous souhaitiez poser.
Et vous intervenez dans quel cadre quand donc vous avez des actions en justice? Comment ça se passe? Vous avez plusieurs cadres dans lesquels vous intervenez?
Alors, pour ces actions en justice-là, donc on a initialement notre réseau de veille qui nous permet de nous tenir au courant de ce qui se passe. Généralement, on mène une petite contre-expertise en matière d'études d'impact pour s'assurer de la conformité de ce qui est déposé dans les documents réglementaires et puis de savoir s'il est nécessaire de s'opposer à ce projet ou pas. Et si on décide d'y aller, soit on aide nos partenaires qui ont décidé de se porter partie civile, et donc cette aide peut être soit sous la forme d'un soutien financier pour les frais de justice, ou alors d'un partage d'expertise à l'attention de nos partenaires, ou alors on se porte nous-mêmes partie civile directement et on assume l'intégralité de ce que ça implique. Et nous, on est assez attachés à cette dimension expertise, c'est-à-dire que quand on se lance dans un recours juridique, on fait en sorte qu'il soit le plus fondé, étayé possible. C'est pas des recours juridiques qui sont simplement là pour faire tourner le monde en rond. L'objectif, c'est vraiment d'avancer. Et si on décide d'y aller, c'est parce qu'on pense qu'il y a véritablement un problème en matière d'environnement sur le sujet en question.
Et puis évidemment, vous êtes un fonds de dotation, donc j'imagine que tous les mécènes, auditeurs de Radio Présence sont les bienvenus pour venir à la rencontre de Clamor-Terrae pour se renseigner. Vous avez dit qu'il y avait un site internet, moi je vous donne l'adresse, c'est www.clamor-terrae, T-E-2-R-A-E.org, www.clamor-terrae.org. Et puis c'est vrai que parfois on peut se sentir un peu impuissant face à la crise écologique quand on est derrière son poste radio en entendant les nouvelles ou les télés.
Justement, en intégrant une équipe, peut-être qu'on peut chacun à notre niveau apporter notre petite pierre.
Mais oui, c'est ça, c'est le rôle de la responsabilité collective. Exactement. Bah, écoutez, rejoignez peut-être les veilleurs, c'est ça? C'est le message.
Hein, on vous invite. Venez avec nous, on n'est jamais trop nombreux.
Merci Thomas Contamine pour vraiment cette sensibilisation à la protection de nos Pyrénées que nous aimons tant et on veut les aimer encore longtemps. Merci et puis on se retrouve une prochaine fois, vous serez là aussi?
Oh, sûrement.
Ouais.
Okay. Et oui, on ne manquera pas le rendez-vous.
Et merci également à David Torchala et son équipe de l'Heure de Pointe, Anne Deslois et Delphine Pereira pour cette émission. Dans quelques instants, on reprend des nouvelles de ce qui se passe sur notre région avec le journal de la mi-journée. Mais pour l'instant, moi, je vous amène sur une route mythique, la fameuse route 66, chantée par Eddy Mitchell.
Présence à Luchon, 94 FM.
Vraiment désolé pour toi. Tu repars vers tes galères. Mais cette fois, ça sera sans moi. Personne ne t'attend là-bas. Plus de musique, pas désertique. Avec des fantômes que tu ne vois pas. Coupe légendaire, croisée des mystères. Mais maintenant, sans. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Le club de la presse Occitanie et Reporters sans frontières appelle à un rassemblement citoyen en soutien à Christophe Glaize. Détenu depuis le 29 juin 2025 en Algérie, le journaliste sportif français a été condamné à 7 années de prison ferme pour des motifs que son comité de soutien considère comme fallacieux, à savoir apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. Le club de la presse Occitanie et RSF demandent au pouvoir algérien la libération immédiate de Christophe Glaize et appellent les autorités françaises à rechercher, dans les meilleurs délais, une solution diplomatique. Le rassemblement aura lieu à Toulouse demain à 11h, Square Charles de Gaulle. La préfète de l'Aveyron a réuni ce jour le comité de suivi du site Bosch, Donner le Château. Ce dernier a eu lieu en présence du délégué interministériel aux restructurations d'entreprises, Gaëtan Rudan, représentant le ministre de l'Industrie, des partenaires sociaux et des élus du territoire. À cette occasion, le comité a décidé d'engager en lien étroit avec Bosch et les collectivités territoriales la phase de redynamisation industrielle du site afin d'attirer de nouvelles entreprises industrielles et des emplois sur le site. Dans un contexte difficile pour l'industrie automobile européenne, le plan de sauvegarde de l'emploi récemment homologué par l'État se traduira par une réduction de l'effectif du site Bosch Donner-le-Château à l'horizon 2030, sans départ contraint. Les salariés volontaires pourront bénéficier des mesures d'accompagnement proposées par l'entreprise, à savoir aide à la formation, à la reprise et à la création d'entreprise, à la mobilité géographique et au dispositif de départ anticipé en retraite. À Bagnères-de-Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées, les travaux des allées Jean Jaurès se poursuivent. De nouveaux itinéraires alternatifs sont mis en place en fonction des secteurs du chantier. La circulation sur les allées est passée en sens unique, dans le sens descendant. Les accès à la rue Foch et à la rue du Général de Gaulle restent globalement ouverts, à l'exception de certaines phases ponctuelles, notamment lorsque l'entreprise intervient au niveau du carrefour du pont de l'Adour. Dans la mesure du possible et lorsque l'état du chantier le permet, la circulation est rétablie en soirée afin de limiter l'impact sur les déplacements quotidiens. Le groupement d'employeurs du Faisansac ouvre une nouvelle permanence dans la ville de Auze. Ce dispositif est dédié à l'usage des coopératives, d'entreprises rurales et des collectives locales. L'Armagnac possède également son groupement d'employeurs agricoles, s'adressant exclusivement aux agriculteurs pour des problèmes de coûts et de conventions collectives. Les permanences actuelles situées à Vic, Faisansac, Lectour, Condon, Nérac et Nogaro vont continuer de mailler le territoire armagnacais. Une nouvelle permanence ouvrira ses portes demain à Auze de 9h à 12h.
Et bien sûr, il fallait noter EOS. Merci beaucoup, Alou Denville, et donc qui est à l'école de journalisme à Blagnac. Et on remercie bien sûr tous ces jeunes d'être avec nous chaque jour sur Radio Présence. Le retour de l'actualité, vous en avez l'habitude, ce sera 13h pour le grand journal de la rédaction française de Radio Vatican. Pour l'heure, on va se plonger dans la lecture. On retrouve Philippe Noni et Diego Rabal. Aujourd'hui, c'est un polar.
Radio Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arabal, Philippe Subercaz.
Un jour, un livre, un auteur, après avoir parlé du procès de Jésus, après avoir été un catholique chez les musulmans, alors on va complètement changer d'ambiance cette semaine. Et en fait, ça sera la première fois que Diego Arabal travaille pour...
Reprend la main.
Pour cette année.
Bonjour, messieurs. Il reprend la main. Ben c'est pas un polar.
C'est pas un polar, c'est un roman noir, intimiste, c'est un peu... Mais c'est pas que du polar.
Des infidélités au polar.
L'auteur que nous recevons aujourd'hui, Georges Patrick Glaize, mêle souvent polar et terroir, et là pour une fois c'est terroir mais avec un peu moins de polar que d'habitude. Il y a moins de morts que d'habitude.
Eh bien, t'as mieux.
Bon, merci Diego Arabal.
À la semaine prochaine.
Pardon. Bonjour Georges Patrick Glaize. Voilà, ben on a le plaisir de vous recevoir. Ce n'est pas la première fois. Vous êtes un habitué de la maison et nous vous recevons aujourd'hui pour votre nouveau roman qui s'appelle « Quand fleurissent les magnolias ». Qui paraît chez Kalman Levy dans la collection Territoire. Alors effectivement, vous écrivez souvent des romans de, enfin vous écrivez des romans de terroir. Vous êtes historien de formation, donc vous écrivez des romans de terroir. Mais beaucoup de vos romans sont des romans avec des connotations policières, ce qui n'est pas le cas pour celui-ci. Mais ce qui n'empêche que j'ai toujours grand plaisir à vous lire. Alors vous êtes un habitué de l'émission, donc vous savez un peu comment nous organisons notre fonctionnement. Donc c'est avec un grand plaisir que je vais lire un petit texte que j'ai commis sur votre roman. Et puis ensuite, ben, nous allons partir de ce texte, de vos réactions par rapport au texte pour faire mieux connaître ce roman à nos auditeurs et leur donner envie de s'y plonger. « Quand fleurissent les magnolias » de Georges Patrick Glaize chez Kalman Levy, Collection Territoire. Fin septembre 1912, la jeune Madeleine Fourcade, âgée de 13 ans, entre au service de la famille Amiel, des notables industriels ariégeois. La vie est dure pour ses parents métayers, dont les revenus peinent à subvenir aux besoins essentiels de deux adultes et de six enfants. À Rivrolles, le domaine où elle officiera, c'est un monde étranger que la jeune fille va découvrir. Formée par Maggie et Auguste, les serviteurs de Pauline et Dieudonné Amiel, et de Louis-André, leur fils, Mado va y vivre quelques années heureuses. Malheureusement, Pauline Amiel disparaît, remplacée par Germaine, qui se révèle être une marâtre pour Louis-André et une harpie pour tous les autres. Comme à son habitude, Georges Patrick Glaize plonge le lecteur dans les arcanes de la vie d'autrefois. Fidèle à ses racines ariégeoises, il nous invite à suivre la vie pénible, aussi bien dans les campagnes qu'à l'intérieur des usines. C'est tout un pan de la fin de la Belle Époque, puis du début des années folles, que Georges Patrick Glaize nous dévoile avec Maestria, une plongée salutaire dans cette époque à peine lointaine. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, Vous revenez hanté, alors vous glissez parce que votre précédent roman se passait juste après la guerre d'Algérie. Là, vous revenez au début du XXe siècle. C'est pas trop délicat pour un historien de faire comme ça des allers-retours sur des périodes aussi disparates?
Non, pas du tout. Non, l'historien est habitué, vous savez, à interroger comme une mouche, je dirais, au fil du temps. Et donc, on passe d'une époque à une autre. Vous voyez, par exemple, actuellement, mon prochain roman, qui paraîtra en septembre, se passe en 1999, c'est-à-dire très contemporain. Bon.
Ah oui.
Donc, on passe de l'un à l'autre sans, avec aisance, parce que l'historien est un peu de tous les temps, en fait, de compte. Hein, bon.
Il est intemporel.
Il est intemporel, oui. Temporel, bon, on est à l'aise un peu. Enfin, bien sûr, ça dépend des périodes globales. Je suis plus à l'aise dans la période du 20e que je suis au Moyen-Âge, sans aucun doute, ça c'est vrai. Bien sûr. Dans une période donnée, bon, on a de la marge de manœuvre, disons.
D'accord. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette période-là, de juste avant la Première Guerre mondiale, et donc votre histoire se déroule sur jusqu'à la Seconde Guerre et la fin de la Seconde Guerre. Qu'est-ce qui vous intéresse en tant qu'écrivain et en tant qu'historien dans le dévoilement de cette période-là sur ces terres ariégeoises?
C'est un monde que nous avons perdu, surtout le monde avant la 14, c'est un monde que nous avons perdu, un monde que certains regretteront, bon, peut-être, mais qui avait aussi ses côtés noirs, hein, ses côtés difficiles, les rapports entre les gens ne sont pas toujours aussi faciles, et c'est un monde dur également, où la condition humaine du travailleur, disons, bien, n'est pas toujours aussi rose que l'image du final qu'on pourrait en avoir. Hein. Mmh. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que, bon, c'est ce monde qu'on a perdu, et il n'est pas j'ai beaucoup de mais c'est que c'est difficile. Et ça, la condition ouvrière, en particulier, me paraît intéressante à dévoiler par rapport aujourd'hui aux paramètres que l'on a dans la société moderne.
D'accord. Et moi, ce que je trouvais intéressant dans ce que vous décrivez, c'est vraiment ces deux mondes, enfin ces trois mondes qui se côtoient plus qu'ils ne vivent ensemble, le monde agricole d'une part avec les parents de cette jeune fille qui est en fait qui sont des métayers, c'est-à-dire des gens qui tiennent une ferme pour un propriétaire et qui donc doivent vivre, ils sont huit, c'est donc une grande famille. Et puis à côté de ça, une famille bourgeoise qui n'est pas propriétaire de terre mais qui est propriétaire d'industrie. Et puis le fait que cette jeune femme va passer d'une condition de serviteur dans une famille bourgeoise à celle d'ouvrière dans l'industrie, et donc elle va épouser un ouvrier, etc. Donc vous passez d'un monde à l'autre et vous montrez bien que les logiques des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes.
Oui, tout à fait. Et disons que ce sont des mondes qui se côtoient mais qui ne se mélangent pas. Je prendrais l'image un peu de l'huile et du vinaigre, vous savez.
Oui.
On peut les mélanger. Ils vont s'émulsionner, mais dès qu'on arrête de se faire de couiller, comme on dit en famille avant, eh bien, ils se séparent à nouveau.
Hein. Oui, oui.
C'est un peu ça. C'est un peu ce monde-là. Le monde paysan, le monde des métayers, ce sont des paysans d'aujourd'hui, hein, des agriculteurs. Sur le port bourg, ils ont 5-6 hectares avec 2-3 vaches, bon, ils tirent le bout de l'an comme ils peuvent, bon, et chaque année est une héroïque dans la manière dont on peut survivre. Donc si on peut placer un ou deux enfants à l'étranger, en dehors de la ferme, disons, c'est autant de gagner pour que les gens auront de plus en plus à manger. Hein, on en est un peu là aussi.
Oui, oui. Bon,
hein. Même s'ils sont souvent un peu propriétaires dans quelques champs, mais leur misère est profonde. La classe bourgeoise, elle, qui est une classe ascendante, qui est une classe de petits propriétaires qui a réussi à s'industrialiser, et eux, ils sont devenus la classe dominante, et désormais, eh bien, ils règnent, en fin de compte, et ils se font servir comme les autres. J'ai cherché un peu à retrouver un peu l'ambiance d'une pièce de théâtre qui a surisé le Tchekhov, vous savez. C'est un peu suranné, c'était pour que l'arbre, voilà. C'est ça un peu qui m'a inspiré comme fil directeur dans l'écriture du roman. Hein. Et à cause de ça, mon ouvrier, jeune fille qui est placée comme bonne, puis elle est certainement en faire, en effet, elle devient ouvrière, il a un monde ouvrier beaucoup plus brutal, bon, et beaucoup plus construit par la lutte des classes, en fait, de quoi déjà. Et donc, elle se trouve dans cet univers-là, et avec, au fond, en arrière-plan, une histoire d'amour, finalement, parce que ce sont des êtres de chair de sang, hein, bon, voilà.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant dans cette confrontation entre les différents mondes, c'est de voir comment les relations humaines sont évacuées ou sont englobées dans les rapports sociaux, dans les rapports politiques même, entre les différents groupes sociaux, quoi. La jeune femme qui quitte le travail de servante parce qu'elle est congédiée, parce qu'elle est amoureuse du fils de la maison, elle est congédiée par une harpie, hein, une marâtre, et elle quitte un monde avec des codes bien particuliers pour arriver dans un monde avec des codes totalement différents qui sont les codes des ouvriers et de l'industrie.
Oui, la classe ouvrière, en effet, et avec des rapports au travail beaucoup plus brutaux, avec des contre-maîtres, etc. C'est un travail qui est rude dans l'usine. Hein. À l'époque, on était en 1912, on travaillait encore 10 heures par jour, hein. Mmh. 8 heures, on t'arrivera que après la guerre de 14, hein.
Oui, oui, c'est à partir de la guerre de 14 que la journée de travail.
Un peu. Les journées de travail se sont longues, et le travail lui-même est abrutissant. machines sont brillantes, les accidents de travail sont nombreux. C'est l'univers d'ouvriers qui n'a rien à voir avec l'univers aspirisé de ce que j'ai d'aujourd'hui. On gagne dans le travail, on fait Dieu merci progresser la qualité de vie, bien sûr. Et l'espérance de vie de l'ouvrier aussi, par la même occasion.
Oui, oui. Mais on se rend bien compte que, malgré les rapports de classe très figés qu'il y a, par exemple, dans à la maison des Amiel, dans cette famille-là, le Margot, elle est bien dans un fonctionnement qui est beaucoup plus doux en apparence jusqu'à l'apparition de Germaine, la marraître. Mais on se rend bien compte que là, on est dans des endroits beaucoup plus polissés dans lesquels les rapports de force, les rapports de domination sont beaucoup plus feutrés et où il y a une adhésion de la part des serviteurs au service et une adhésion à cette idéologie du service, ce qui n'est pas le cas dans l'industrie où le rapport de force est beaucoup plus brutal, il n'est pas feutré, il est brutal, et où les rapports de force s'expriment de façon souvent beaucoup plus violente et même très violente.
Oui, dans le fonctionnement de la société bourgeoise ou avec maître et serviteur, la vie quotidienne est assez huilée, disons. Elle est assez huilée, c'est lubrifié. Même si les serviteurs sont là, des fois on les voit, ils sont pas autant qu'on peut les voir, parce qu'ils sont un peu considérés comme des meubles, presque, pour certains. Mais il n'y a pas la brutalité, en effet, du rapport humain qu'il y a dans l'industrie. Là, vraiment, c'est beaucoup plus féroce, je dirais. C'est deux mondes différents. Et un monde, d'ailleurs, va engendrer des comportements politiques, contestation de classe, etc., etc. Alors que l'autre l'exprime beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de phénomènes de révolte, au fond de compte, chez les serviteurs, dans les maisons bourgeoises, que dans le monde de l'usine.
Oui. Alors, il y a cet aspect policé, avec des règles du jeu qui sont bien huilées et qui répondent à une sociabilité, du moins en surface. Et puis, il y a le fait que dans le fonctionnement du serviteur, on est dans des quantités de personnel qui sont bien moindres. Les Amiel, ils ont trois serviteurs, hein, il y a...
Voilà, à la maison, il y a 3-4 personnes.
Voilà.
On n'est pas en résine avec plusieurs
centaines
de gens qui travaillent, et les concurrences, d'ailleurs, entre les ouvriers, c'est assez peu souligné, ça, il y a des concurrences entre les ouvriers qui existent aussi, dans la manière dont se comporter par rapport aux contremaîtres.
Bon, oui.
Il y a des concurrences qui peuvent être des fois frontales ou des fois latéral, c'est-à-dire que certains sont à mieux se faire voir, d'autres peut-être au contraire sont plus en affrontement. Bon, c'est tout un monde différent, le monde ouvrier, c'est vrai.
Oui, oui. Mais le monde ouvrier permet aussi, justement par cette super hiérarchisation, hein, parce qu'il y a les contremaîtres, mais il y a en plus les chefs d'atelier, il y a au-dessus des chefs d'atelier, il y a les directeurs de l'usine, il y a tous les cadres, etc., les ingénieurs. C'est-à-dire qu'il y a toute une armée au sens... voilà, oui. Qui fait que les conditions de mise en place des rapports de force sont beaucoup plus faciles, mais dans lesquelles, justement, parce qu'il y a toute cette hiérarchie, les rapports humains sont beaucoup plus rugueux parce que à tout instant il y a la possibilité pour tout le monde d'être brutal sans avoir à en référer, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un au-dessus qui devient celui par lequel je légitime ma violence. Alors que dans la maison bourgeoise, mis à part la plus vieille domestique qui gère la maison, hein, qui est la gouvernante de la maison, les autres domestiques éventuellement, ils ont un rapport unique, quoi. Et c'est généralement dans ces petites structures la maîtresse de maison, donc la femme du propriétaire, qui va tout régenter et où les rapports sont beaucoup plus directs, même s'ils peuvent devenir excessivement violents, parce que par exemple le passage de je me souviens plus du prénom de la première femme de Amiel à Germaine, sa deuxième femme, ce passage là il est brutal, quoi. Et cette femme, elle est vraiment d'une violence inouïe.
Une violence et une méchanceté également.
Oui.
Elle est inique, vraiment. Le passage, justement, où elle oblige Mado à aller avorter, c'est assez abominable. Et malheureusement, c'est inspiré de faits réels.
Oui.
C'est tragique, hein, cette dimension. Que nous avons perdu aujourd'hui, Dieu merci, qui existait dans les rapports humains jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en fin de compte. Hein.
Mmh. Écoutez, on arrive au bout de cette interview. Donc, je rappelle que nous sommes avec Georges-Patrick Glaize pour son roman « Quand fleurissent les magnolias », qui est paru aux éditions Kalman-Lévy dans la collection Territoire. Vous disiez en début d'interview que vous étiez en train de travailler sur un nouveau roman.
Un nouveau roman, en effet, qui est en chantier, en effet, à peu près la moitié. Pour donner le titre de Scoop, ça s'appelle « Tel un oiseau blessé ».
Ah, tel un oiseau blessé, c'est un beau titre.
Et ça raconte l'histoire d'une gendarmette d'aujourd'hui qui enquête sur un serial killer, quelqu'un qui fait des meurtres en Syrie. Et puis, je vous dis pas la suite, mais je vais découvrir que derrière tout ça, il y a un écrivain assez célèbre qui écrit des scénarios et puis qui cherche à réaliser lui-même les scénarios qu'il a écrits. Voilà.
D'accord. Donc,
un polar, en fin de compte.
Vous revenez au polar, là.
Que le magnolia, un peu plus.
D'accord,
plus.
Oui.
Oui. Il n'y a pas derrière un peu historique qu'il y a dans le magnolia avec la structure sociale, etc. Voilà.
D'accord. Et donc,
comme le magnolia, du thème des vengeances, en fin de compte. C'est ce thème global des vengeances qui habite.
Faut dire que c'est quand même un des grands classiques des histoires locales, quoi. Hein. C'est en règle générale, il y a des jalousies, il y a des vengeances, il y a des méchancetés qui sont faites. Voilà.
Il se passe à l'arrière comme le précédent.
D'accord.
Un monde un peu différent, sans aucun doute. Le problème du magnolia a été très inspiré aussi par le fait que moi j'ai eu travaillé il y a 40 ans dans le textile, donc ça m'a beaucoup inspiré des éléments dans l'usine. Mais là, il est également différent, ça se passe un monde totalement autre, mais qui est aussi prenant avec le suspense des autres, voilà.
Eh bien, très bien. Georges Patrick, ce sera avec plaisir que nous vous recevrons pour votre... pour l'année 2026, donc pour la fin de cette année 2026. Là, pour l'instant, la priorité, c'est celui-ci, c'est « Quand fleurissent les magnolias », donc voilà. Chez Kalman-Lévy, dans la collection Territoire. Eh bien, Georges Patrick, merci d'avoir été avec nous, et puis je vous souhaite une bonne poursuite de cette année qui vient de bien s'engager. Allez,
merci,
à bientôt, au revoir.
Eh ben voilà, mon petit Diego, ça fait du bien de vous entendre un peu.
Ah ben oui, et puis voilà.
Vous aimez ça.
Ah mais j'adore ça, oui.
Tout à fait. Un grand merci à vous, et puis vous serez là la semaine prochaine.
Ah ben je serai là l'année prochaine. Déjà la semaine prochaine, je serai là avec un grand plaisir, et puis on découvrira nos invités de la semaine prochaine.
Exactement, il faut garder le suspense.
Tout à fait. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Philippe Subercase.
Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. J'suis mal dans ma peau. J'voudrais voir le monde à l'envers.
toujours confondu la vie avec des bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. Au grand loto de j'ai pas tiré mon numéro, je suis mal dans ma peau. Et j'ai pas envie d'être un robot, mais trop boulot dodo. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs? Pourquoi je crie, pourquoi je pleure? Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. J'ai jamais eu les pieds sur terre.
Dans la cité mariale, 96.
Je sais ton amour, je sais l'eau versée sur mon corps, sentir son cours jour après jour. J'ai remonté les tourments pour m'approcher encore. J'ai ton désir ancré sur le mien. J'ai ton désir ancré à mes chevilles. Viens, rien ne nous retient à rien. Tout ne tient qu'à nous. Je fais de toi. Tu sais mon amour, tu sais les mots sous mes silences, ce qu'ils avouent couvrent et découvrent. J'ai à t'offrir des croyances pour conjurer l'absence. Comme tu l'écris, tiens, rien ne nous emmène plus loin qu'un geste qui revient. Je fais de toi. Mon essentiel, tu me fais naître parmi les
tu veux qu'on s'apprenne, qu'on s'appartienne.
L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur internet radioprésence.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Léon XIV poursuit sa relecture du Concile Vatican II lors de l'audience générale ce matin à Salle Paul VI. Il est revenu sur des